tout est possible, en fait. Indépendamment de votre parcours de vie, de votre situation sociale, tout est possible. Il faut juste des fois se donner les moyens et aussi des fois faire des belles rencontres qui peuvent changer notre vie. Mais d'être dans ce mindset de « je lâcherai rien, j'abandonnerai jamais rien, je reste positive, confiante, j'assume qui je suis et on avance. »
Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du Monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlète, journaliste, médecin ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Salut tout le monde! Championne du monde est de retour pour une nouvelle saison qui s'annonce un peu différente des autres, mais qui promet d'être terriblement excitante et surtout sans langue de bois. Cette année, vous pourrez toujours écouter les portraits de championnes au parcours singulier, hors normes ou parfois même totalement romanesque, mais la part belle sera également faite au sujet de société, en vous proposant plus de talk et en s'attaquant à des sujets noueux ou qui peuvent faire débat dans le milieu sportif. Un bien beau programme qui commence tout de suite avec la première interview d'une figure incontournable du basket français. Elle détonne sur les terrains avec sa taille, 1m65, mais elle prouve depuis maintenant 8 ans en équipe de France que rien n'est trop grand, ou en l'occurrence trop petit, pour ceux qui ont l'envie et la détermination. Mon invitée, c'est Olivia Epoupa, meneuse de l'équipe de France de basket et quadruple vice-championne d'Europe. Une femme engagée, résiliente et audacieuse qui incarne totalement une nouvelle génération d'athlètes qui marque de son empreinte le monde du sport. Rien de mieux pour commencer cette nouvelle saison qu'une dose de motivation version Spirit et Poupa. Et pour cette saison, retrouvez un nouvel épisode toutes les deux semaines, le mardi soir minuit, et également plein de contenu exclusif sur la page Instagram ou TikTok Championne du Monde. Et si vous voulez nous donner de la force, partagez les épisodes à des proches à qui vous voulez du bien ou mettez une pluie d'étoiles au podcast sur les plateformes de streaming. Un grand merci à vous et bienvenue ici. Salut Olivia.
Salut Cléo.
Comment tu vas?
Ça va très bien et toi?
Eh ben écoute, ça va super bien. Je suis hyper contente parce que du coup, c'est le premier épisode de la nouvelle saison. Je suis trop contente de pouvoir le passer avec toi et de pouvoir échanger un petit peu dans cet épisode. Donc déjà, j'aimerais bien revenir un tout petit peu. On va commencer quand même par les bases, histoire que ce soit clair pour tout le monde et que voilà, on replace un petit peu tout ce qu'il faut replacer sur ton palmarès. Donc tu t'appelles Olivia Epoupa.
Oui, c'est bien ça.
T'es 4 fois vice-championne d'Europe avec l'équipe de France. T'as participé aussi au JO de Rio, où vous avez fait 4e. Et t'as un palmarès aussi en club, donc championne de France en 2017 avec Villeneuve-d'Ascq, vainqueur de l'Eurocoupe 2017-2018 avec le Galatasaray Istanbul, championne d'Australie en 2020 avec le Canberra Capitals. Ça fait pas mal de trucs déjà.
Ça va. Je me plains pas, ça va.
J'en oublie ou pas? On est bon.
On est bon.
Voilà, ouais. Donc un beau palmarès. Tu as intégré l'équipe de France féminine en 2015, je crois, c'est ça? Donc ça commence à faire 7 ans.
C'est ça, le temps passe vite.
Le temps passe vite. Et t'as que 28 ans, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais t'es encore hyper jeune. Faut le dire, 28 ans, c'est jeune. À chaque fois, tu dis, mais non, trop pas et tout. Attends, je vais bientôt avoir 30 ans. Pas du tout, t'es hyper jeune. Donc voilà, donc maintenant déjà, on a replacé le palmarès. Moi, j'aimerais bien rentrer un petit peu dans le vif du sujet et dans qui est Olivia, en fait. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué sur les réseaux sociaux. Tu utilises beaucoup le hashtag Spirit et Poupa. Sur tous tes posts, on sent que c'est un peu ton le petit truc qui te définit. Moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi le Spirit Epoupa en fait.
C'est vrai que tu l'as souligné, le Spirit Epoupa, c'est vraiment ma personnalité, ce que je peux incarner, que ça soit sur le terrain dehors. Et c'est vrai d'avoir cette signature, le Spirit Epoupa, c'est aussi rendre hommage déjà à mon nom de famille, mes origines, que je sois fière en fait de la personne que je suis. Et Poupa, je sais que je représente mon père, aussi ma mère de là où elle est. Et ça a toujours été, voilà, essayer d'être une marque de fabrique, c'est vrai, que les gens puissent s'identifier à moi par mes valeurs, parce que je peux incarner C'est sûr que ça passe par la détermination. J'ai une forte détermination. Je fais tout ce que je peux faire avec cette détermination et tous les projets, en tout cas, que j'entreprends. Il y a un mot-clé déjà, c'est être déterminé. Mmh. Ensuite, mettre les choses en place, s'entourer de personnes compétentes pour atteindre au mieux ses objectifs. Mais le spirit et Poupa, c'est aussi la joie de vivre. On joue certes au basket, donc il y a de la compétition, mais il faut prendre du plaisir, je le dis souvent aux gens que je peux rencontrer. Et le spirit et Poupa, pardon, ça incarne aussi l'ouverture d'esprit. On me dit souvent que je suis un peu une sorte de globe-trotteuse,
ouais,
parce que j'aime bien voyager. Mais toutes ces inspirations, toutes ces expériences ont fait de moi la personne que je suis, que j'ai grandi. Toutes les personnes que j'ai pu rencontrer m'ont aidé à grandir en tant que jeune fille, en tant que basketteuse et en tant que femme. Et je le souligne, je suis femme et basketteuse avant tout. Le spirit et Poupa, c'est le lifestyle aussi qui m'a été transmis par ma maman dès mon plus jeune âge. La mode, ce côté un peu girly, mais j'avais aussi ce côté garçon manqué. J'avais cette balance-là. Le spirit et Poupa, c'est la passion pour le sport. Je suis certes basketteuse, mais j'ai été multisport avant de commencer le basket. Tu sais, je fais du foot, j'ai fait de la clé, du roller. Donc, j'ai touché à pas mal de sports avant d'atterrir dans le basket grâce à une belle rencontre.
Ouais.
Ouais, le spirit et Poupa, c'est la positivité, c'est voilà, le sourire, d'essayer de rebondir, de rester positif, quelles que soient les épreuves de la vie qu'on peut avoir. Voilà.
Ça va, je ne suis pas trop à côté de la plaque. Parce que tu vois, j'avais noté, on a l'impression que tu marches à l'énergie positive, à l'énergie guerrière et à la détermination.
Ouais, c'est ça, ça t'a fait dans le mille. C'est parfait.
Ça va, c'est vraiment, je trouve, c'est les mots-clés qui ressortent quand on t'écoute en interview et ce que tu essayes aussi de faire ressortir sur tes réseaux. C'est vraiment ça, du coup, qui te définit, quoi.
C'est ça. C'est ça, c'est sûr, parce que c'est vrai qu'on a tendance des fois à nous voir en tant que basketteuse avec l'uniforme du basket, sur les terrains. Mais en dehors aussi, on peut avoir d'autres traits de caractère. Et c'est grâce aussi aux réseaux sociaux qu'on peut être au contact de nos fans, de notre communauté, d'échanger encore plus. Moi, j'aime bien être aussi au contact après les matchs ou quand on a tendance à voir les gens qui sont venus, qui nous ont attendus, échanger avec eux. Même ne serait-ce qu'un sourire, on sait que c'est une reconnaissance. En fait, moi, je sais, j'ai été aussi à leur place.
Ouais.
Et lorsque j'attendais des superstars qui m'ont jamais dit non, en fait, tu vois. Je garde de très bons souvenirs et c'est sûr que de voir des sourires, que ce soit des enfants, même des parents qui ont fait des kilomètres, bah, moi, c'est juste une partie de plaisir.
Est-ce que c'est une manière aussi, parce que tu t'évolues dans un sport qui est un sport collectif, pour toi aussi d'avoir ta propre personnalité, d'être une entité à part entière dans le collectif, tu vois?
Tout à fait, c'est sûr qu'on est tous des individus avec notre personnalité, nos qualités, nos défauts. Et c'est bien d'assumer aussi qui on est, tout en étant dans cette humilité et dans cette confiance. Et c'est sûr que d'avoir ce spirit et Poupa, bah, ça marque les esprits. Et le fait d'avoir aussi des actions qui permettent de nous mettre en valeur, d'apprendre aussi à nous connaître en tant que sportive, mais aussi en tant que femme, bah, ça aide les gens à rentrer dans notre univers.
Ouais. J'ai remarqué aussi sur ton Insta particulièrement, c'est vrai que tu mets beaucoup de petites citations, de choses sur le développement personnel pour prendre confiance en toi. J'en ai ressorti une qui m'a un peu marquée, où tu mets « L'amour propre est la première clé qui ouvre la porte des relations saines. Donc n'oublie pas de prendre soin de toi et d'apprendre à t'aimer pour ce que tu es. » Tout commence par toi, tu es le maître du jeu, du déroulé de ta vie. Je trouvais que c'était hyper fort. Comment toi, t'as appris ou comment t'as appris à t'aimer toi, à prendre confiance en toi au fur et à mesure?
Je dirais que c'est parti déjà de mes parents, de l'amour inconditionnel que mes parents ont toujours eu pour moi. Et ensuite, aux belles rencontres que j'ai pu avoir tout au long de ma vie quand j'ai commencé le basket. Comme je le dis souvent, il y a des rencontres qui vous marquent. Et moi, il y a des rencontres qui m'ont marqué, qui m'ont fait prendre conscience de la personne que j'étais, de mes qualités et de mes défauts. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, je le dis souvent, aime-toi d'abord avant que les autres t'aiment. On n'est pas là, du moins ma vision, c'est on sait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est pas le but du jeu. Mais plus on s'aime, plus on est en capacité de cultiver la positivité, la confiance en soi. En fait, je pense que c'est un processus d'une vie. Des fois, on va avoir des hauts, on va avoir des pics, on va bien se sentir. Des fois, on va avoir des coups de moins bien, ça arrive.
Ouais.
Et quand on est bien entouré, quand on sait sur qui on peut compter, c'est une richesse aussi. C'est pas « j'ai construit ma confiance toute seule ». Non, c'est aussi les gens qui ont été autour de moi qui m'ont permis de valoriser cette confiance et de cultiver cette confiance au quotidien. Et ça, j'en serai toujours reconnaissante.
Si t'es arrivée à ce niveau-là, c'est grâce à ton entourage et aux gens qui t'entourent?
Ah, c'est sûr. C'est sûr, c'est grâce à mon entourage. C'est parti déjà de mes parents. C'est mon inspiration. Ça a toujours été mon inspiration. Ça le sera toujours. Ensuite, ma détermination, qui a toujours été l'une de mes forces, et les rencontres que j'ai pu faire de ma vie. Moi, je partais du principe que, Olivia, tu vas construire ton équipe, une équipe de personnes compétentes dans leur domaine d'expertise, mais à la fois humaines. Voilà, c'est la bienveillance. C'est important.
C'est une question d'équipe, quoi.
C'est une question d'équipe, c'est une question d'équilibre. On peut travailler en ayant l'exigence tout en se respectant. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Les personnes qui travaillent avec moi, qui m'entourent, on a un système de valeurs en commun. On a quelque chose qui nous relie, qui nous attache. Et ça, je suis très sensible à ça. Après, dans notre univers, on peut rencontrer certaines personnes. On peut être en désaccord tout en étant dans le respect.
Bien sûr.
Et c'est ça aussi qui fait notre richesse. Comme je dis souvent, on peut gagner avec notre pire ennemi. Ce n'est pas le problème. Ouais. Tant qu'on est sur la même longueur d'onde, tant qu'on sait quels sont nos objectifs, on fonce en fait. C'est tout.
Tu parles de rencontres, toi, en fait, même au tout début, et ce qui t'a amené au basket, finalement, c'est une rencontre aussi. Tu le disais tout à l'heure, c'est grâce à Anne, c'est ça ?
C'est ça, Anne. Ah ouais, Anne, franchement, c'est la rencontre qui a changé la tournure de ma vie. C'est vrai que, comme je te l'ai dit, je pratiquais plusieurs sports à la fois. Donc, j'avais le basketball, j'avais le tennis. J'avais pas le tennis, même pas. J'avais la clé. Le tennis, c'est via Serena Williams, dédicace.
Okay.
J'avais le foot, j'avais le roller, la clé. Et en fait, Anne, elle m'a dit un jour, lorsque j'ai perdu ma maman très jeune, elle m'a dit, tu sais, tu devrais continuer dans le basket. Je l'ai regardé, l'air de dire, ok, bon, ouais. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai par quelle qualité j'ai ? Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, Olivia ? Écoute, là, fonce, on verra bien. Et c'est de là qu'a commencé cette belle histoire avec mon club formateur qui est le Paris Basket 18, que j'ai rencontré Thomas Fondeur. Et tout est parti de là, en fait. C'est vrai que Anne, moi, elle m'a toujours marqué aussi, c'est que toutes les séances de sport qu'on avait avec elle, on aimait trop ça, en fait. Il y avait du sourire, on était contents, on ne savait pas à quoi s'attendre. Il y avait une sorte de créativité, de plaisir, de joie. Et ça marque, en fait, en tant qu'enfant, en fait. On se dit, ah, certes, il y a une exigence parce qu'il y a des règles, il y a un cadre, mais à côté de ça, je prends du plaisir. Et ça, Anne, elle a toujours su valoriser ses élèves, faire en sorte que les différences, on ne les voit pas, en fait. Et ça soit notre richesse. Et sur ça, quand je la revois, je me dis, bah, merci Anne, merci déjà.
C'est par elle que tout a plus ou moins commencé, quoi.
Bah, c'est sûr, c'est par elle que tout a commencé. Après, c'est vrai que ça s'est vite enchaîné avec les sélections. Mais Anne, je ne la porterai à jamais dans mon cœur. C'est une personne de ma famille, ça, c'est sûr.
On ne l'a pas précisé, en fait, c'était ta prof de sport à l'école élémentaire.
C'est ça,
donc, quand tu étais vraiment toute petite. Et ça, c'est quelque chose, moi, c'est un sujet qui me tient aussi beaucoup à cœur parce qu'on tape souvent sur l'éducation nationale et sur les professeurs d'EPS, etc. Sauf que c'est aussi eux qui peuvent être là au tout début. Quelle place, pour toi, l'éducation physique, ça a à l'école aujourd'hui, en fait ?
À l'époque, moi, j'en garde des très bons souvenirs. C'est vrai que j'avais des profs qui étaient bienveillants, qui étaient toujours dans vouloir échanger, communiquer. Et ça, déjà, c'est rassurant en tant qu'élève de se sentir important, de sentir que notre parole est reconnue. Et c'est sûr que j'ai cité Anne, mais j'ai encore de très bons souvenirs de certains profs où je me disais, au lit, en fait, j'ai envie de repartir au cours parce qu'il est trop bien, il est enrichissant. La personne, elle est humaine, elle a cette capacité à transmettre. En fait, c'est comme si c'était un plaisir, c'était pas une contrainte. Et c'est sûr que ça a été fédérateur aussi et ça a été complémentaire de l'éducation que j'ai pu avoir chez moi, en fait. Parce que c'est vrai qu'on passe des fois plus de temps à l'école que chez nous.
Carrément.
Et quand on trouve cet équilibre, quand on se sent bien, ben, les résultats, ça suit. Indépendamment, des fois, on peut avoir des difficultés, certes, mais quand on ressent le soutien, ça aide à surmonter les difficultés. Et en fait, en tant qu'élève, on va fournir encore plus d'efforts, indépendamment de la difficulté auxquelles on fait face. Et c'est sûr que l'éducation nationale a une importance. Donc, c'est sûr que ces personnes qu'on rencontre, on a besoin de se sentir écoutées, on a besoin de se sentir des fois valorisées, indépendamment de nos situations personnelles, sociales, et de fédérer, voilà, de se dire qu'on est ensemble, on est dans une classe. Et chaque individu a une importance. Chaque individu a une richesse et comment on peut l'exprimer. Et ça, c'est un plus. Et c'est vrai que je trouve ça dommage de ne pas avoir, entre guillemets, aussi ces recours ou du moins ces feedbacks où on peut valoriser ces gens qui sont en fait énormes. Ouais. Ils sont remarquables. C'est des fois, je sais qu'il y en avait certains, ils avaient même la place de parents.
Bien sûr.
Ils avaient un comportement de parents, ils avaient cette gentillesse, ils avaient cet amour.
Et surtout, ouais. Et surtout dans le sport où t'es hors de la classe aussi. Donc t'es dans un environnement qui, pour certaines personnes, tu te sens plus à l'aise aussi. Donc c'est vrai que moi, je trouve que le cours d'EPS, en tout cas, moi, c'est aussi les souvenirs que j'en avais. Mes deux parents sont professeurs d'EPS. Donc ça te permet aussi de te révéler et d'être moins bloqué par ce côté hyper cadré et restreint que peut être aussi la salle de classe et l'école, tu vois.
Moi, c'est sûr, parce que comme tu l'as dit, il y a différentes formes de personnalité. Mmh. Il y a des personnes, moi, je sais qu'à l'école, j'étais très bavarde. C'est peut-être mon côté hypersensible, mais j'étais très curieuse, j'étais très bavarde. Et du coup, c'est vrai qu'il faut un cadre, il faut une discipline. Mmh. Donc ça, c'est super important. Il y en a d'autres qui vont être plus timides. Et le fait de s'entraider, d'apprendre à connaître l'autre, c'est une richesse de se dire « Ah, ok, elle est certes timide, mais comment je peux aider à sublimer cette timidité, à faire en sorte qu'elle puisse s'exprimer et vice-versa ouais. Comment je peux apprendre aussi d'elle, voilà, de ce sang-froid, de ce calme ?» Donc, c'est un échange de bons procédés, je dirais.
Apprendre à se révéler un peu, en quelque sorte.
Ouais, c'est ça, on est jeune, donc on veut, à chaque fois, tu sais, on veut montrer. Donc, il y avait des cours de PS, il y avait le challenge. En plus, avec Anne, elle aimait bien nous challenger. Donc, c'était trop bien. moi qui suis compétitrice dans l'âme, donc dès qu'il y avait tournoi, dès qu'il y avait match, on est parti au taquet, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a ce côté challenge aussi quand on a les examens. Mm. Mais c'est différent. Il y a une source de stress parce qu'on se dit « Ah, bah, si je ne suis pas à la hauteur, est-ce que je serai jugée ?» Alors que de prendre du recul et d'avoir aussi des personnes qui nous rassurent, ok, vous pouvez avoir une note qui ne convienne pas à vos attentes, mais vous allez progresser, vous allez vous améliorer. C'est aussi un plus, je dirais.
Tu as utilisé un mot aussi tout à l'heure qui j'ai l'impression, en tout cas, pourtant, est un mot important, c'est le mot « transmission ». J'ai l'impression, en tout cas, quand on regarde ce que tu fais et ton investissement, etc., que t'as envie de transmettre aussi maintenant à ton tour, d'être peut-être une inspiration aussi pour les jeunes filles, ou les jeunes garçons aussi, bon, je vais spécifiquement me centrer aussi sur les jeunes filles. C'est quoi ta motivation pour faire ça, en fait? Déjà, est-ce que je me trompe? Est-ce qu'effectivement,
non,
c'est vraiment...
Non, tu te trompes pas. C'est vrai que le mot transmettre, c'est un mot qui est très important pour moi. Je pense que ça m'a été transmis inconsciemment par mes parents. Comme je l'ai dit, c'est mon père qui m'a transmis cet amour du sport, ouais. Cette passion du sport. Et c'est vrai que les rencontres que j'ai pu avoir dans ma vie m'ont transmis certaines valeurs, m'ont transmis certaines leçons. Et comme on dit, on n'est que de passage sur ce monde-là. Garder nos compétences, garder ce qu'on a pu apprendre, bah, va pas forcément aider à l'amélioration générale de ce monde-là. Donc, c'est sûr que lorsqu'on rencontre des gens qui nous transmettent leur savoir et qui ont cette bienveillance dans le partage, bah, on a envie de faire de même. Mm. C'est pas une contrainte, en fait. Comme quand je te disais, transmettre, c'est pas une contrainte d'échanger avec des gens plus âgés ou plus jeunes. Non, au contraire, moi, j'adore les enfants. Dès que je vois les enfants, bah, fou, je m'arrête, je suis OK, stop. Même si on a entraînement et que je suis sur l'échauffement, hein, bah, je vais essayer d'être en interaction avec eux. Je vais essayer de m'imprégner de ce qu'ils sont, même en quelques minutes, hein, c'est pas grave.
Ouais.
Même si je dois me réchauffer après, de faire un petit jeu. Mais je trouve que c'est important et c'est aussi une forme de bienveillance parce qu'il y a des manières de transmettre et... indépendamment des individus, il faut apporter certains outils et s'adapter à la personne avec qui on est en face, en tout cas.
Ouais, c'est quelque chose que tu fais naturellement, en fait, presque. Quand j'ai dit, c'est quoi ta motivation pour faire ça? C'est pas la motivation, c'est finalement quelque chose, en fait, qui fait partie de toi.
C'est ça, non? C'est pas, ouais. Je me lève le matin, ouais. Et je me dis, bon, voilà, c'est parti. Aujourd'hui, je vais transmettre. Non, franchement, je pense que ça s'est fait naturellement.
Il y a aussi un autre, je parlais du coup de tes engagements. Là, au mois de juin, je crois, tu étais à l'inauguration d'un nouveau playground dans le 12e à Paris, qui avait vraiment la volonté, en gros, d'une meilleure occupation des femmes du terrain, qu'elles prennent leur place aussi dans l'espace public. Cette valorisation du sport au féminin, en tout cas des femmes dans le sport, ça, c'est quelque chose aussi qui te tient à cœur?
Tout à fait, je pense. Après, je parle aussi de manière générale, la mixité, c'est aussi quelque chose de très important. Et toutes les actions qu'on a pu voir ces derniers temps montrent aussi l'investissement de notre gouvernement sur valoriser le sport et encore plus le sport féminin. Et je pense qu'en tant qu'actrice du sport, on se sent reconnaissante, on se sent aussi inconsciemment ou indirectement sensibilisés par cela.
Ouais.
Et c'est vrai que ces actions telles que l'inauguration d'un playground, on se dit, mais c'est rien. Non, ça permet d'échanger. C'était une célébration du basket. Ça permet à des jeunes filles de se dire, bah, moi aussi, j'ai ma place dans ce playground. Je peux venir jouer librement sans être jugée. Et c'est un plus. Je pense qu'on doit encourager de plus en plus ces jeunes filles à pratiquer le sport, parce que le sport a certaines vertus pour le bien-être, pour la santé. Et moi, je sais que je suis très sensible au bien-être. Il y a différentes manières de pratiquer le sport. Ce n'est pas faire du sport qu'à haut niveau. On peut marcher, c'est du sport. On peut prendre soin de soi. C'est très, très important. Et ça, il ne faut pas le négliger. Je pense que plus tôt on sensibilise notre jeunesse, mieux ça sera. Et c'est vrai que ces actions comme l'inauguration d'un playground marque le coup et marque aussi ces jeunes générations.
Tu as aussi été marraine aussi de tournois. Est-ce que ce côté rôle modèle, on en parle souvent de l'inspiration, de pouvoir s'identifier en tant que jeune fille ou jeune garçon à quelqu'un qui nous ressemble, en tout cas à qui on a envie de ressembler, ça c'est quelque chose qui est important. Toi, tu as eu ces rôles modèles quand tu étais plus jeune ?
Bien sûr, quand tu parles de rôle modèle, certes, il y avait ma mère et mon père, et ensuite il y a eu Serena Williams,
ouais,
tu vois.
Ouais.
Genre, en fait, quand je l'ai vue, cette femme, elle m'a tellement marquée par son charisme, par son leadership, parce qu'elle dégageait, en fait, la domination qu'elle a pu avoir sur les terrains en dehors et ce qu'elle a pu incarner pour le sport en général, indépendamment de sa discipline qui est le tennis, ça marque. Elle, c'était mon rôle modèle. Je me disais, Olivia, sois déterminée comme elle, en fait. C'est une bosseuse. Elle se donne les moyens pour. Elle n'est pas numéro un pour rien. Il y a un investissement, il y a du travail qui est fourni. Et ça... ça marque les esprits. Moi, ça m'a marqué plus jeune. Moi, je sais que Serena, j'étais une fan. Mais vraiment, quand je te le dis, j'étais fan d'elle. C'est-à-dire que quand elle gagnait, je vivais le moment à fond. C'était comme si j'étais avec elle à fond. Quand elle perdait, le monde s'arrêtait. Mais j'avais ce côté mauvaise perdante. J'arrête de regarder le tournoi, ça ne m'intéresse plus,
ouais,
en fait.
Ouais, je comprends tellement. Ah, je faisais la même chose.
Tu vois ce que je veux
dire ?
Ouais,
complètement.
Donc, du coup, et en fait, ce qu'elle incarnait, il n'y avait pas uniquement... le fait qu'elle dominait sur le circuit, non, c'est qu'elle incarnait quelque chose. On pouvait s'identifier à elle, on pouvait se dire, un jour, j'aimerais bien ressembler à Serena. Un jour, j'aimerais bien me donner les moyens de ressembler à Serena. Peut-être tout est possible. Elle avait cette confiance en elle qu'elle dégageait, elle avait cette humilité de se dire, chaque jour, je veux revenir plus forte. L'effort que j'ai produit la veille n'est pas suffisant. Et ça, ça marque. En fait, on se dit, ah ouais, ok, c'est prenant. C'est prenant. En fait, je te parle comme si j'étais avec elle, là, sur un tournoi. Sur un tournoi, tu sais, dans...
Alors, écoute, voici Serena Williams.
Alors que pas du tout. Mais c'est sûr que moi, je sais que ça m'a marqué. Et après, comme ça revient encore aux rencontres, il y a des gens aussi qui te marquent, tu sais, par leur système de valeurs, ce qu'ils peuvent te transmettre. Et c'est juste un processus. Et du coup... je pense que pour revenir à ce que tu disais, c'est important aussi de, quand on est jeune, de se dire, ah, je peux m'identifier à quelqu'un.
Ouais.
Il y a quelqu'un qui me ressemble ou qui a un parcours assez similaire du mien. Qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Et ça, je pense que c'est un plus et c'est aussi une source de motivation pour la jeunesse de manière générale, de se dire, tout est possible en fait. Indépendamment de votre parcours de vie, de votre situation sociale, tout est possible. Il faut juste des fois se donner les moyens et aussi des fois faire des belles rencontres qui peuvent changer notre vie. Mais d'être dans ce mindset de « je lâcherai rien, j'abandonnerai jamais rien, je reste positive, confiante, j'assume qui je suis et on avance. »
Eh bien, tu vois, pour revenir sur Serena Williams, effectivement, c'était elle était atypique aussi sur le circuit. Une femme noire... très muscleuse, peut-être plus que les autres femmes. Elle a fait de sa différence, entre guillemets, une force. Et c'est ça aussi qui l'a fait devenir l'icône qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que toi aussi, on a souvent dit au début, Olivia Epoupa, elle est petite. Est-ce que ça aussi, toi, tu t'es dit, bah regarde, genre, une nana comme Serena Williams, elle en a fait sa force. Bah, moi, je veux aussi en faire ma force de ça, de cette différence. J'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, bah, ma particularité, mon unicité.
En fait, quand j'ai commencé le basket, j'ai pas forcément réalisé que j'étais dans un monde entre guillemets de grands.
Ouais.
Voilà. Moi, comme je te l'ai dit,
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pratiquer pour m'amuser.
Pour le kiff.
C'est ça, pour m'améliorer chaque jour. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai pris conscience avec l'interaction sociale et tout ce qui se passait, parce que ça s'est vite enchaîné pour moi, les sélections. Ah oui, je suis vraiment entourée de, de filles qui sont plus grandes. Ouais. Mais c'est vrai que ça n'a jamais été un complexe pour moi. Mmh. Et moi, je le dis. Notre force, c'est aussi notre différence. Et ça, il faut qu'on le garde dans notre tête. C'est pas avoir ce complexe de se dire « Ah, je suis dans le basket, la plupart des filles sont plus grandes que moi, je vais jamais y arriver. Mm. » C'est sûr que si on part avec cet état d'esprit-là, déjà, on se tire une balle dans le pied. Indépendamment de ce que les gens peuvent penser et ensuite rajouter une couche derrière. C'est sûr que moi, j'ai eu l'entourage qui a été toujours positif derrière moi, que ce soit mon père qui a fait tous les déplacements, qui m'a aidée. Et j'avais aussi cette détermination de me dire, bah, je veux montrer en fait, je vais montrer qu'on est capable d'y arriver, que malgré notre différence, bah, on peut faire quelque chose de bien. Et pour revenir à ce que tu disais, moi je pars, quand je rencontre des jeunes filles qui sont de petite taille, je leur dis, les filles, croyez en vous. Mm. Ne soyez pas, comment dire, rabaissées, ne vous sentez pas rabaissées, n'ayez pas de perte de confiance en vous parce qu'on vous rabâche que votre taille est un défaut.
Ouais. Non, surtout dans le basket où effectivement c'est le premier truc qu'on voit et qu'on recherche. Quoi.
Voilà, c'est ça. Et des fois, j'en rigole un peu. Tu sais, des fois quand je suis en déplacement, bon, il n'y a que des grandes. Tu vas interagir avec les gens. Bah alors, vous êtes joueuse ? Non, je suis kiné. Ouais. Pour déconner, ouais. Tu vois ce que je veux dire. Non, bah, je suis kiné, voilà, deuxième degré. Mais, ouais. Mais du coup, non, c'est plus sérieusement, c'est vraiment aussi montrer à ces jeunes filles qu'il faut qu'elles aient confiance en elles et qu'elles, comment dire, les sensibiliser sur le potentiel qu'elles peuvent avoir.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire, ouais. C'est des fois, on peut être bon plus jeune et on peut prendre plus de temps. Mmh. C'est propre à chacun. Et des fois, comme je l'ai dit, il suffit d'une rencontre, il suffit aussi d'un déclic, de se dire, mais je suis capable de l'accomplir, en fait. Indépendamment de ma taille, ben, c'est un plus.
Ça aussi, que tu parles beaucoup de détermination, c'est pour que ça, ah bah ça oui, rentre aussi ça, dans ça.
Toute façon, dans le sport, le mental, ça joue. On peut être la plus talentueuse du monde. Mmh. Si on n'a pas de mental, on ne gagnera pas de titre, à part si on est aussi bien entouré. Mais le talent ne fait pas tout. Et je pense que le mental joue un rôle prépondérant dans la performance de manière générale. Que ça soit, on parle du sport, mais même dans les entreprises, celles qui ont le mental, la détermination de battre la concurrence, ouais. Ça joue. De se dire, ce matin, je me lève, je suis déterminée, je sais pourquoi je fais les choses, ça fait sens, ça fait écho. Et c'est pour ça que moi, cette détermination, des fois, indépendamment de ce que je peux ressentir, je te dirais pas, j'ai déjà eu des frustrations, c'est sûr, ça fait partie du quotidien. Mais la détermination de se dire « je vais revenir plus forte », voilà, ça permet de mettre en œuvre, des moyens et des choses en place. Mm. Et ça, c'est important.
D'un point de vue personnel, vraiment, tout ce qui est aspect mental, c'est aussi important presque que le talent et en tout cas l'aspect physique.
Tout à fait. Hein. Moi, j'ai commencé le basket, pour être très honnête avec toi. Je ne savais pas jouer au basket. J'avais ni le style. Je savais pas du tout. Limite, j'étais plus, j'avais le style d'une handballeuse, okay. Tu vois, j'avais mon mini short, plutôt que la basketteuse. Donc, c'est vraiment la volonté de travailler, de m'améliorer chaque jour, de me challenger, parce que c'est vrai que chaque nouvelle épreuve, moi, je le prends comme un challenge. J'aime me challenger, et c'est ça aussi qui fait l'une de mes forces. Mais je partais pas défaitiste dès le départ, en fait. J'ai commencé le basket, je savais pas où j'allais. J'ai dit, écoute, Olivia, vas-y, fonce, prends du plaisir. Et une fois que j'ai vu que ça s'enchaînait, j'ai fait, ah ben, je vais pas faire ça pour rien, en fait. Mmh. Je vais aller jusqu'au bout et je vais me donner les moyens pour.
Je lisais au début, tu disais que quand t'avais commencé, en tout cas, quand t'as commencé à devenir pro, il y a 10 ans, que ton but, c'était d'être un petit peu meilleur chaque jour. C'est ce que tu avais dit. Est-ce que ça fait 7 ans que tu es en équipe de France, 10 ans que tu es pro, est-ce que tu as... C'est toujours ton leitmotiv. Est-ce que tu essayes toujours d'être un petit peu meilleur chaque jour? Et est-ce que tu as l'impression de continuer à être un petit peu meilleur chaque jour?
C'est toujours mon leitmotiv, indépendamment du sport. C'est de manière générale, dans ce que je fais dans la vie, c'est me lever en me disant « il faut que tu sois meilleur que la veille ». C'est d'avoir cette humilité de se remettre en question et se poser les bonnes questions, de s'entourer des personnes qui sont en capacité de te regarder dans les yeux et te dire « Olivia, ce que tu fais, c'est pas bon, tu dois le refaire différemment ». Et ça... ça a toujours été mon mindset, c'est tu lâches pas en fait. C'est pas parce que tu as eu tel titre individuel, telle récompense, MVP dans le 5, des médailles, ok, mais ça suffit pas. Si tu veux aller plus loin, il faut te surpasser, il faut continuer à sortir de ta zone de confort, pardon. Et je le fais, j'essaie de le faire au quotidien. Et j'ai des personnes qui m'aident aussi. Il y a des moments où tu peux te sentir démotivé, ça peut arriver. Mmh. Et quand tu as le soutien de tes proches, bah ça t'aide encore plus. Et donc, tu vas te dire, j'ai ma motivation interne, j'ai certaines motivations extérieures, ça m'aide, je veux pousser. Et ça restera toujours mon leitmotiv, ça c'est sûr.
Comment tu fais pour garder la motivation après 10 ans à haut niveau?
Ah, c'est vrai qu'il faut trouver son équilibre. Je ne vais pas dire. Il faut trouver son équilibre. Après, moi, comme je te l'ai dit, je ne suis pas issue d'une famille de basket. Ouais. Moi, c'était plutôt sport. Après, j'ai vite compris... en faisant mon développement personnel avec les belles rencontres que j'ai pu avoir, indépendamment des résultats, des défaites, des blessures, que moi, il faut que je trouve mon équilibre. Mon équilibre, pardon, ce n'est pas uniquement que le basket, ouais. En fait. C'est ce que je vais mettre à côté qui vont faire que je vais m'épanouir. À partir du moment où je m'épanouis, je suis en capacité de produire certaines choses positives pour le basket et non que l'inverse, se focaliser uniquement que sur le basket. Après, c'est propre à chacun. Mm-hmm. C'est moi. C'est ce que moi... Olivia, j'aspire à faire, c'est ce qui me rend le plus heureuse et qui me rend, on va dire, qui fait que je sois en capacité de performer encore aujourd'hui. Ça, c'est sûr que le temps passe vite. Tu l'as dit, ça fait 10 ans, là. Ça fait 10 ans. Mais franchement, je pense que chaque année, en fait, on peut sublimer. L'âge, c'est juste un chiffre, en fait. Peu importe. Je pense qu'il y a des très beaux exemples. Il y a des gens... ils ont 36, 37 ans, 38 ans, ils sont toujours performants.
Bien sûr.
Donc là, je ne dois pas être un frein. Mais moi, je sais qu'à partir du moment où j'ai mon équilibre, je suis bien dans ma tête, le reste, ça arrive si ça doit arriver. En tout cas, je reste positive. Et le jour où j'estimerai que voilà, je dois tourner la page, c'est comme ça. Je sais que le basket, c'est qu'un temps. Je ne me voile pas à la face. Donc, c'est pour ça que... j'aime aussi faire d'autres choses à côté, d'avoir cet équilibre, de me sentir bien. Une fois que je me sens bien, après le basket, c'est ouais, prendre du plaisir. Certes, je prends du plaisir, mais il faut que je sois aussi performante, ça c'est sûr. C'est important. Mais voilà.
Non, c'est pas fini encore là. Tu dis dans quelques années, mais on a, y a encore un petit peu de temps, non?
Ouais, mais le temps passe vite, hein, Cléo. tu m'as dit, ça fait 10 ans.
Bah ouais, mais bon.
10 ans, franchement, ça, mine de rien, ça passe super vite, mais c'est hyper enrichissant. Je ne suis pas nostalgique du temps qui passe. Je ne suis pas en train de me dire « Oh là là, j'aimerais bien être à mes 18 ans, mes 20 ans. » Non, parce que je sais que chaque année a été hyper enrichissante. Chaque année, j'ai appris quelque chose et ça m'a sublimée en tant que femme, en tant que joueuse. Et c'est positif. Et au contraire, je n'ai pas de regrets, en fait. Ouais. C'est que des enseignements.
Mmh. Est-ce que tu as la motivation des médailles aussi? Est-ce que tu fais partie de ces gens-là? De se dire « Ok, aller chercher... » Donc, on dit que tu as eu 4 médailles d'argent européennes. Tu étais malheureusement blessée sur les derniers Jeux. Est-ce que ce truc aussi de dire « Ouais, allez, une petite breloque en plus, tout ça », c'est des choses et des pensées aussi que tu as, toi?
Je pense que tu as souligné un truc qui est très important. Je suis certes compétitrice dans l'âme, mais il faut prendre aussi un... Comment dire? Il faut être en capacité aussi de prendre du recul sur certaines situations. Mmh. Comme tu l'as dit, j'ai raté les Jeux Olympiques et les filles ont été médaillées de bronze.
Ouais.
Ça pouvait être une frustration. Non, c'était mon destin. J'étais blessée, c'était comme ça. J'ai travaillé pour revenir plus forte. J'ai fait la saison que je devais faire avec Montpellier, qui s'est bien terminée pour
saison,
moi.
Ouais.
Ça fait partie des enseignements. Je ne me lève pas le matin en me disant... il faut que je ramène une médaille. Non, je me lève le matin en me disant, il faut que je sois la meilleure version de moi-même. Ce que je fais, est-ce que ça me plaît? Quels moyens je peux mettre en œuvre? Est-ce que je suis alignée avec moi-même? Ok, Tu peux être aligné avec toi-même et ne pas être médaillé. Il y a des gens qui ne sont pas médaillés olympiques et qui ont une très belle vie, qui se sentent épanouis. En tant que sportif, c'est sûr que c'est le Graal d'être médaillé olympique parce qu'il y a des, il faut savoir qu'il y a des sacrifices, il y a des investissements qui sont mis en place depuis des années. Donc ça, il ne faut pas le banaliser, ça c'est sûr. Moi, je te parle, moi, je sortais de l'entraînement, je suis revenue, je vais enchaîner. Mais je pense qu'au fur et à mesure des années, j'ai pris du recul tout en étant compétitrice, en voulant à chaque fois donner le meilleur de moi-même et avoir le meilleur résultat possible pour mon équipe. Je me suis dit, OK, j'ai les médailles, c'est très, très bien. J'ai pas les médailles, je serais pas en train de sourire, ça, c'est sûr. Le temps d'évacuer la frustration.
Normal.
Mais après, tu t'essaies de prendre du recul sur ça, en tout cas.
Du coup, j'allais te dire, forcément aussi, là, l'aspect compétition est en toute logique aussi. Paris 2024, dans 2 ans, c'est demain, franchement, dans 2 ans.
C'est clair, c'est comme si c'était demain, c'est vrai, t'as
ça
tout
arrive,
dit.
Non, ça mais arrive,
ça arrive à toute vitesse, comme tu l'as dit. Et c'est vrai que ça passe vite, on fait les saisons, on enchaîne, il y a des matchs, waouh. Et on se dit, à Paris 2024, c'est demain. Ça, c'est sûr que ça fait rêver beaucoup de personnes. En plus, c'est vrai, ça sera à Paris, ma ville de cœur.
Ouais.
Donc du coup, c'est vrai qu'on peut m'en parler souvent.
Bien sûr.
Mais je pense qu'il ne faut pas non plus être galvanisé par l'environnement extérieur et se reconcentrer vraiment sur ses objectifs, qu'ils soient sportifs et extra-sportifs. Et à partir du moment où tu as ton équilibre, tu fonces. Après, des fois, tu sais, tu peux tout donner, tu n'as pas de regret, te regarder dans un miroir, j'ai tout donné, je n'ai pas le résultat que je veux, c'est comme ça. Et des fois, tu peux te dire, je n'ai pas assez donné, il faut que je me remette au travail. Mais c'est sûr que les Jeux Olympiques, c'est le moment qu'on attend en tant qu'athlète. Ouais. On a travaillé pendant 4 ans, voire plus, parce qu'il y a eu des frustrations. Il y en a certains qui ont raté l'événement. Donc, du coup, ils ont à cœur de revenir encore plus fort. Donc, c'est sûr que, on intensifie encore plus les efforts et on se prépare aussi à de la performance parce que les Jeux Olympiques, c'est la plateforme mondiale pour montrer et mettre en lumière surtout le sport.
Est-ce que c'est négatif selon toi du coup de te projeter un peu là-dessus parce que ça peut être aussi source de stress comme tu l'as dit, Paris, enfin 2024, à Paris, en plus toi c'est vraiment ta ville parce que t'es originaire de Paris, ouais. Ça va être à côté de chez toi quoi. Donc,
c'est clair.
c'est quand même rare dans une vie de sportif ou de sportive de se dire je vais potentiellement faire les Jeux Olympiques dans ma ville, tu vois.
Ouais, non, c'est clair. Non, mais en fait, moi j'ai toujours fonctionné. J'aime pas trop me projeter. Je peux avoir Paris 2024 en tête, mais il y a un processus, il y a des objectifs à court, moyen, long terme. Paris, c'est encore loin pour moi.
Ouais.
J'ai une saison qui m'attend, d'une part avec le Fenerbahçe qui sera bien, bien relevé, avec de l'ambition. Et j'aime l'ambition. On a à cœur de vouloir décrocher ce premier titre historique qui est l'Euroleague. Et on va se donner les moyens pour. Avant ça, il y aura l'équipe de France et les ambitions que l'équipe de France a. Donc, il faut avancer, en fait, avec le temps. Je pense que des fois, trop se projeter, ça génère du stress inconsciemment. Et plus on est tranquille... Étape par étape, et plus les choses arrivent tranquillement. Des fois, pas tranquillement, mais c'est toujours une leçon. Donc, je ne vais pas non plus... En tout cas, moi, j'essaie de ne pas trop m'emballer parce que c'est Paris. Je ne suis pas souvent à Paris, heureusement. Mais je n'essaie pas de m'emballer par rapport à l'événement qu'il y aura eu autour.
Est-ce que tu as l'impression aussi que ça peut être qu'on met un peu une sorte de poids sur les épaules des athlètes français parce que ça va être Paris 2024 et parce qu'ils ont dit on va faire 80 médailles, machin, tout ça. Et du coup, finalement, au lieu de peut-être être motivant, c'est plutôt une sorte de poids et de pression qu'on met sur les athlètes français, tu vois.
C'est sûr, c'est à la maison. Donc, le pays hôte est toujours regardé encore plus que les autres pays. Après, c'est vrai qu'il faut savoir que la France a fait de très, très beaux résultats à Tokyo. Mm. Donc, c'est sûr que les exigences vont encore plus augmenter, encore plus en France. Donc, ça, c'est sûr que ça peut générer du stress. Ça peut générer aussi de la motivation en tant qu'athlète de se dire « Ah, je suis reconnu en tant que favori, donc je vais montrer et assumer mon statut.
Ouais. »
Donc, ça dépend comment certains le prennent, en fait. Je pense que ça peut être une source de motivation, comme pour certains, ils peuvent avoir aussi un détachement. Mais tout dépend comment on construit, en fait, sa saison, ses saisons. C'est propre à chacun.
Ouais. Bah, écoute, en tout cas, Inch'Allah sur Paris 2024.
J'espère. J'espère que je te croiserai.
C'est possible.
J'espère juste.
C'est possible. Et là, du coup, comment tu vis? Alors, t'as grand changement encore là. Tu pars. En Turquie. T'avais fait 2 saisons déjà dans 2 clubs différents en Turquie. C'est tu repars en Turquie là pour une nouvelle saison avec une coach que tu connais bien, qui avait été, je crois, assez marquante pour toi.
C'est ça, Marina Malkovic. Je l'avais eue à Galatasaray lorsqu'on avait gagné le titre européen, l'Eurocup. Et j'étais partie déjà pour elle, indépendamment de ma volonté de partir à l'étranger, parce que j'ai toujours été animée, j'ai toujours voulu partir à l'étranger pour me challenger encore plus. C'est sûr que ça aide, oui et non. C'est vrai que notre statut, il change. On va avoir davantage plus de pression, c'est sûr, parce qu'on sait que on veut un truc, c'est l'Euroleague. Alors, je banalise pas les autres compétitions, bien évidemment. On est toutes des compétitrices, donc chaque match qu'on va faire, on va vouloir le gagner, ça c'est sûr. Mais dire qu'on veut l'Euroleague, ça nécessite un travail en amont, ça c'est sûr. Et moi, je suis déjà très contente de repartir en Turquie parce que j'ai adoré la Turquie. Je me suis sentie chez moi, je me suis jamais sentie dépaysée. Selon quelles que soient les saisons, j'ai passé 2 ans là-bas, c'était magique, rien à dire. Je suis contente de repartir en Turquie dans un nouveau club et de faire de très belles rencontres et de aussi faire en sorte qu'on puisse récolter les fruits de notre travail, ça c'est sûr.
Et aussi et forcément aussi la partie équipe de France, parce que voilà, la partie saison régulière, on va dire, et la partie équipe de France, c'est aussi quelque chose qui te motive sur cette année avec les compétitions.
Ouais, parce que c'est vrai que ça fait longtemps.
Les 2 dernières, bah ouais, c'est pour ça. Du coup, malheureusement, l'Europe et sur les Jeux, t'étais blessée. Donc c'est vrai que ça fait un petit bout de temps.
Ouais, ça fait quand même pas mal de temps, mine de rien. Je sais pas si ça va me faire plus de 1 an, je pense.
Ouais.
Sans compétition avec l'équipe de France. J'étais revenue, mais je m'étais reblessée en février. Donc, en fait, limite, je le compte même pas comme si j'étais revenue. Après, c'est partie des allées de sportives. On sait que la blessure peut arriver à tout moment. C'est comme ça. Mais moi, je l'ai toujours pris comme une leçon, en fait. C'est indépendamment de ce qui se passe, il y a la tristesse. Parce qu'il y a des efforts, il y a un travail qui est fourni. On se dit, mais pourquoi ça m'arrive maintenant, en fait, alors que j'ai tout programmé pour que ça se passe bien. C'est comme ça. Et ouais, j'aurai à cœur de revenir avec l'équipe de France et de monter en régime progressivement et d'atteindre nos objectifs. Après, motivé à fond aussi pour les choses qui vont arriver plus tard, ça c'est sûr.
Et c'est vrai que votre équipe de France, elle est canon. J'ose le dire, non, franchement, elle est trop cool. J'ai l'impression que depuis quelques années aussi, tu as ce mélange entre les plus jeunes qui arrivent, celles qui ont plus d'expérience. Je ne dis pas les plus vieilles parce que forcément, non, pas du tout. Et on sent une émulation qui est vraiment vive aussi dans cette équipe, quoi. On sent qu'il y a un espèce, c'est débile de dire ça et ça peut être un peu bateau, mais une sorte de renouveau aussi dans l'équipe de France.
Ouais, je pense que on a eu des résultats assez positifs, encourageants, mais il faut Bien savoir sûr. Quand même que l'équipe de France aspire à mieux.
À mieux, ouais.
Il y a eu des déceptions parce que tu parlais souvent des médailles d'argent. Il y en a beaucoup qui me restent là, ça c'est sûr. Notamment celle qu'on a échoué à Rio. L'équipe de France a montré qu'il y a un vivier sur le territoire français.
Ouais.
Et je voulais mettre aussi en alerte que la compétition mondiale s'intensifie. Tous les continents sont forts maintenant aujourd'hui. On ne peut plus arriver et se dire et d'avoir la prétention « Ah, ça va être facile, ça va être un match. » Non. Chaque adversaire est redoutable. C'est comme des finales, en fait. La Coupe du Monde, ça sera des finales. Alors, les Jeux Olympiques, n'en parlons pas. C'est des finales, mais avec l'intensité des Jeux Olympiques. Donc, c'est sûr que l'équipe de France a des ambitions, comme les autres équipes. Donc, il va falloir redoubler d'efforts, ça, c'est sûr. Et voilà, fournir le travail nécessaire. Donc, l'équipe de France va être attendue, c'est sûr, à la Coupe du Monde. Mais comme beaucoup d'équipes, quand on voit la liste des nations, quand on voit la liste des nations, on sait que ça va être une compétition assez relevé. Et c'est ça qui te challenge en tant que joueuse, c'est de se dire, je me lève le matin, je sais que ça va être dur. Il va falloir que je sorte de ma zone de confort, que je sois déterminée, que je sois aussi confiante de mon jeu, du jeu de le collectif, et à la fois que je sois en capacité d'avoir cette humilité, de respecter l'adversaire et de produire le meilleur jeu possible. Ça, c'est hyper important. Après, des fois, les résultats, on ne les contrôle pas. Il y a des situations qu'on ne peut pas contrôler. Mais l'équipe de France, que ça soit filles et garçons, a un vivier, ça c'est sûr. Comme je t'ai dit, des fois, le potentiel ne suffit pas et le talent ne suffit pas. Donc, il faut redoubler d'efforts et ensuite se donner les moyens d'atteindre nos objectifs.
Tu le dis aussi, le niveau mondial ne cesse d'augmenter. C'est des beaux matchs, c'est du beau jeu. Est-ce que tu ressens aussi que les gens s'intéressent de plus en plus à l'équipe de France féminine, parce qu'on parle malheureusement, heureusement, mais beaucoup des garçons, et qu'on parle de plus en plus de vous aussi. Est-ce que tu le ressens ça, avec l'engouement populaire, il est de plus en plus grand?
Oui, c'est vrai que de manière générale, le sport féminin, il y a plus d'engouement. C'est sûr que grâce aux plateformes telles que les Jeux Olympiques, les gens ont accès au sport et ils peuvent découvrir des disciplines, peuvent découvrir des joueuses, des joueurs, des athlètes et se dire waouh, c'est incroyable. Et avoir ce respect en comprenant les efforts qu'ils ont pu produire. Et c'est vrai que l'équipe de France, c'est vrai que c'est fédérateur d'engouement. Il y a pas mal de gens qui répondent présents, qui se déplacent, qui font des voyages de je sais pas où pour venir voir ne serait-ce que des matchs amicaux de préparation. Ouais. On voit la détermination, les gens, ils sont vraiment à fond. Et quand on a la chance d'échanger avec eux, c'est que des moments de partage, c'est une fierté, c'est un plaisir de venir, de nous supporter. Et je dis souvent, ils jouent souvent le rôle du sixième homme. Et ça, on le ressent en tant que joueuse. Et pour avoir joué dans des grosses équipes avec des gros supporters, on sent la différence lorsqu'il y a un sixième homme. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'engouement, il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent au basket. Et c'est un plus. Et je trouve ça bien, en fait, que les gens s'intéressent de plus en plus au basket. Qui se disent, je vais aller acheter mon billet pour regarder les femmes jouer, je vais acheter mon billet pour regarder, une compétition de judo, de s'intéresser au sport, parce que c'est super enrichissant et je trouve ça cool.
Ouais, je peux juste encourager les gens du coup à vous regarder à partir du 22 septembre pour la Coupe du Monde.
Et c'est
puis,
ça.
Et puis de suivre votre parcours en espérant que
ça se passe
ça
bien.
Aille le plus loin possible jusqu'à la finale et. La petite breloque dorée, quoi. Ce serait canon. Si on pouvait, toi, te souhaiter une chose dans un temps long ou plus court, ce serait quoi?
Non, mais je sais pas, en fait. Qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter? Non, je le dirais pas, en fait.
Ah ouais? Horrible! Oh là là!
Non, plus sérieusement... Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? D'atteindre mes objectifs tels qu'ils soient et que je reste en bonne santé, santé mentale, santé physique et que je continue à être épanouie dans ce que je fais. Et surtout, prenez soin de vous. C'est aussi ce que je souhaite aux gens de prendre soin d'eux et d'être épanouie dans ce qu'ils font.
Top. Et dernière question, qui est la question subsidiaire que je pose à toutes mes invitées. Est-ce que tu peux me donner ta définition de ce qu'est une championne?
Je te l'ai dit tout à l'heure, Serena Williams, sinon je dirais une championne, c'est une personne qui a un mental d'acier, qui est en capacité de faire face aux obstacles de la vie, tels qu'ils soient. Comme je l'ai dit, des fois, on peut faire face aux blessures, il faut surmonter, c'est toujours un enseignement. Une championne, c'est quelqu'un aussi qui sait s'entourer, qui sait bâtir une équipe pour l'accompagner, pour la sublimer, pour la valoriser. Ça, c'est très important. À partir du moment où on est capable de fédérer autour de cette championne, ça aide. Le mental, il lâche prise de plus en plus et il est en capacité de produire encore plus d'efforts. Une championne, c'est quelqu'un qui ne lâche jamais rien, qui n'abandonne pas, indépendamment des résultats, qui rebondit, même dans la difficulté. Une championne, ça ne lâche jamais rien. Une championne aime les défis. Une championne, ça sort de sa zone de confort. Et une championne, c'est une bosseuse. Une championne, elle est humble. Elle est confiante, elle est fière de ce qu'elle est.
Top. Écoute, merci beaucoup, Olivia, pour ce moment.
Merci à toi, Cléo.
C'était hyper cool de pouvoir discuter tous ces sujets-là avec toi et de rentrer aussi un peu dans le détail. Je te souhaite de rester en bonne santé, d'atteindre tes objectifs.
C'est cool, merci beaucoup.
Et puis, on se recroise peut-être dans 2 ans.
Je l'espère dans 2 ans. C'est tout
là.
Le souhait en tout cas.
Merci beaucoup et puis écoute, à bientôt.
À bientôt.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport au féminin. À bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.